Le deuxième problème, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a peu d'intérêt pour la Guadeloupe en tant que telle, ou pour le Goka en tant que telle. Une critique facile, c'est s'il n'y a pas de livre sur le Goka, c'est peut-être qu'on n'en a pas besoin. C'est un peu dur comme constatation, mais je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue alors que j'essayais de vendre mon projet de livre à une presse universitaire très réputée, et où l'éditeur m'a regardé et m'a dit: j'ai déjà un livre sur le nationalisme et la musique en Jamaïque, pourquoi est-ce que je publierais un livre sur la Guadeloupe? Tout ça veut dire que pour moi commence un gros travail de reconceptualisation de mon projet. Pour répondre au désintérêt des éditeurs américains, je cherche à mettre en avant ce que la Guadeloupe peut apprendre au reste du monde, et je reprends là une expression de Lena Blum. Si le rôle de la musique dans les mouvements nationalistes de décolonisation a déjà été bien étudié, il me faut penser plus loin. En quoi est-ce que la Guadeloupe est différente de la Jamaïque ou de Trinidad? La réponse est claire et simple. La Guadeloupe n'est pas indépendante. Elle a suivi ce que Jean-Pierre Sinton appelle une décolonisation improbable. Elle nous permet de comprendre le postcolonialisme comme n'étant pas limité à un récit de résistance menant de la domination à l'indépendance. À sa place émerge la complexité des enchevêtrements postcoloniaux. Mon livre n'est donc pas un livre sur le Goka. C'est un livre qui écoute le Goka pour penser la postcolonialité d'une nation non souveraine. Je reprends là l'idée que l'anthropologue Harry Marbonnia a sorti, qui a sorti un excellent livre sur les mouvements syndicaux en Guadeloupe et qui a fait son travail de terrain quelques années avant moi ici.